15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Tous les jours, nous vous recevons de 15h à 16h et chez nous, dans ce studio, ce qui est bien, c'est que c'est sans rendez-vous, bien sûr. Sans rendez-vous, on parle donc de vos petits et gros bobos et promis, on le fait tous les jours dans la bonne humeur. Je dis on parce que je ne suis pas toute seule dans ce studio, il est là tous les jours à mes côtés, le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie.
Alors, je vous déroule le programme du jour. Notre grand dossier sera consacré aux opérations de la myopie. Actuellement, plusieurs techniques de laser différentes permettent aux patients de retrouver une excellente vision de loin. Alors comment se déroule ce type d'intervention? Est-ce vraiment accessible à tous les myopes? On fera le point avec notre invité, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue à Paris. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Enfin aujourd'hui, c'est plutôt un coup de chapeau. Il va nous parler d'une association baptisée Pharmaciens Solidaires qui vient en aide aux plus démunis en redistribuant des produits de parapharmacie. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de l'orthorexie, quand le manger sain devient une obsession, voire même une maladie. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des complexes physiques qui peuvent parfois réellement perturber les relations amoureuses et sexuelles.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Clémence.
Bonjour Mélanie et docteur Dimi Mohamed. J'ai une petite question, on parle souvent du microbiote en ce moment. Et je vais savoir, apparemment ça permet d'améliorer notre flore intestinale. Et qu'est-ce que ça vaut si on va en pharmacie et en automédicamentation, on demande des probiotiques? Est-ce que c'est efficace ou pas? Merci, au revoir.
Alors c'est vrai Jimmy, les probiotiques, tout ce qui pourrait faire du bien à ce fameux microbiote dont on parle très souvent d'ailleurs dans cette émission, c'est très à la mode en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, les fameux probiotiques dont elle parle, Clémence, est-ce que c'est intéressant? C'est quoi un probiotique?
Alors c'est vrai qu'on a deux passions ici dans cette émission. Un, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc.
Mais évidemment, et puis, ça c'est votre passion surtout.
Et le microbiote. Et donc quand on parle de microbiote, il faut parler des probiotiques. Alors c'est pas Mélanie Gomez et Dimi Mohamed qui disent ça, c'est l'OMS et le FAO, qui est une organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui les définissent comme des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, peut avoir un effet bénéfique sur la santé et notamment en rétablissant la flore intestinale. Et lorsque cette flore
microbiote,
intestinale,
c'est la flore intestinale qu'on appelle.
Et lorsqu'elle est rétablie et qu'elle est en bonne santé, ça permet d'améliorer le transit, de lutter contre les colopathies, ces douleurs abdominales chroniques, et puis on pourrait prévenir certaines ulcères à l'estomac. La tendance est telle que le marché actuel pourrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 4 ans, rien qu'en termes de probiotiques.
Ah oui, c'est énorme, c'est plus qu'une mode. Là, on parle d'un carrément un très gros business, même en devenir. D'ailleurs, d'après Que Choisir, donc le mensuel de l'Association Union Fédérale des Consommateurs, notre microbiote peut se passer de ces produits d'automédication par contre.
Exactement, dans son dernier numéro qui est paru le 21 novembre, l'organisme s'attaque notamment à la commercialisation des probiotiques sous forme de compléments alimentaires. Déjà, ils insistent sur le fait qu'en prévention, les probiotiques qui sont vendus à la pharmacie ne sont pas forcément bénéfiques pour la santé. Et puis, Que Choisir évoque aussi dans un rapport de la DGCCRF, qui est l'organisme de répression des fraudes, que les probiotiques, parfois, mais sont vendus un peu sous une forme d'appellation mensongère, notamment dans les formes de compléments alimentaires.
Oui, il y a des petites pubs devant qui disent c'est super pour le transit,
voilà,
c'est super pour les enfants.
Ça boosterait le système immunitaire, ça ferait du bien au ventre des enfants. Alors, c'est peut-être vrai,
mais en tout cas,
les probiotiques ne sont pas recommandés à tous, et surtout sous forme de compléments alimentaires. On n'est pas sûr de leur efficacité.
Là, ils donnent des allégations qui n'ont pas été prouvées puisque les compléments alimentaires n'ont pas besoin de faire des études cliniques pour prouver leur efficacité comme les vrais médicaments.
Exactement.
C'est ça.
Donc, comme pas d'études cliniques, pas de tests scientifiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on n'a aucune preuve de ce qu'ils avancent. Et donc, par conséquent, c'est très bien que la publicité est un peu surfaite, voire mensongère.
Donc, le seul conseil qu'on peut donner aux gens, finalement, c'est bon, peut-être que la réglementation sur ces compléments alimentaires changera, mais c'est en gros pas d'automédication avec ces probiotiques-là.
Oui, éviter souvent d'en prescrire, notamment chez les enfants qui ont des coliques de bébés nés par césarienne, puisqu'on sait qu'ils ont une flore un peu intestinale abîmé. Autre conseil qu'on peut faire, c'est lorsque vous prenez des antibiotiques, on peut adjoindre des probiotiques pour éviter la diarrhée. Et puis, un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de limiter votre consommation d'antibiotiques. Ça préservera votre microbiote. Surveillez votre alimentation et évitez les plats industriels qui, sur le long terme, ont un réel impact sur le microbiote et qui, pour le coup, peuvent vous donner des troubles du transit.
Merci beaucoup, Dimi. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Flora. 32 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur Dimi Mohamed. Alors, voilà, moi, je suis enceinte. Et depuis, j'ai le ventre qui me démange, et ainsi que plein d'autres parties du corps. Je voulais savoir si c'était normal pendant la grossesse et est-ce que je devais m'inquiéter, et auquel cas est-ce que je devais consulter. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.
Alors c'est une bonne question, Jimmy. Ça me rappelle ma grossesse. Mes deux grossesses, j'avais le ventre qui me démangeait. J'avais pas de vergiture pourtant, parce que c'est ça parfois, hein, je crois. Mais sinon, c'est pas grave de se gratter comme ça, d'avoir des démangeaisons enceintes.
Au niveau du ventre, c'est très fréquent. On pense qu'il y a un mécanisme évidemment hormonal. Et puis c'est lié à une peau qui serait un peu étirée, du coup un peu plus fragile. En revanche, c'est un peu plus fréquent si vous avez ces fameuses vergetures qui liées au fait que les fibres se cassent de collagène et détruisent peu à peu la peau et qui donnent ces sensations de démangeaisons qui ne sont pas très graves, mais qui peuvent être un petit peu invalidantes.
Alors vous dites c'est pas grave, mais elles peuvent faire quoi les femmes enceintes chez qui ça gratouille comme ça?
Préférez des vêtements amples, hydratez votre peau, mettez de la crème, et puis évitez tout ce qui est synthétique, ça peut parfois être un peu irritant, et à ce moment-là, il faut pas hésiter aussi à bien s'hydrater en termes en buvant énormément au-delà de la crème.
Alors attention quand même, on n'a pas beaucoup de temps, mais si les démangeaisons sont très graves, deviennent insupportables, là ça peut être quelque chose de plus sérieux.
Surtout si c'est la paume des mains, la plante des pieds, si c'est nocturne que ça réveille, ça peut être révélateur d'une cholestase gravidique.
Oula, c'est quoi
c'est
ça?
L'accumulation de sels biliaires qui normalement participent à la digestion. Lorsqu'il y en a un peu trop et on ne connaît pas trop le facteur...
Ça arrive souvent en fin de grossesse, hein, je crois.
À partir du troisième trimestre, mais ça peut arriver un petit peu avant. Chez les femmes, on ne connaît pas trop le facteur déclenchant, mais c'est héréditaire. Et ben, ces sels biliaires passent dans le sang, et lorsqu'elles passent dans le sang, elles sont responsables de démangeaisons. Il faut absolument
consulter. C'est une urgence.
C'est une urgence. Il y a un traitement médicamenteux et une surveillance accrue, car il y a un risque pour le bébé et la maman.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Flora qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour pour une association. C'est plutôt un beau coup de chapeau du jour aujourd'hui. Pharmacien solidaire qui vient en aide aux plus démunis en redistribuant des produits de parapharmacie. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Gatinel, avec qui on va tout vous dire sur les opérations de la myopie. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Damien Gatinel, avec qui on va faire le point sur les chirurgies de la myopie, c'est le moment du coup de chapeau du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une association baptisée Pharmaciens Solidaires, qui vient en aide aux plus démunis en redistribuant des produits de parapharmacie. Comment est née cette association?
Alors tout a commencé le 8 mars dernier, lors de la journée internationale du droit des femmes, où le pharmacien Sami Taïb Boulafa avait décidé d'organiser une distribution gratuite de produits de parapharmacie destinés aux femmes sans-abri. De cette initiative est née cette association qu'il préside, qu'il a appelée Pharmaciens Solidaires, car jusqu'à présent, on ne pouvait rapporter à la pharmacie que des médicaments et pas des dispositifs médicaux.
D'accord. Alors quel est le but concrètement de cette association?
Alors c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Donc le but, c'est simplement d'aider les gens. Elle a été créée en mai 2019 et elle a pour objet de récolter des dons de produits de parapharmacie. Alors ça peut être des testeurs, des échantillons, des produits dont la date de péremption est proche,
quoi, ouais.
des choses qui seront en fin de série et de les récupérer auprès de pharmacies, parapharmacies, laboratoires ou d'autres volontaires.
D'accord.
Et à ce moment-là, ces dons sont ensuite distribués à des associations qui sont reconnues pour venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Ces associations s'engagent à signer une charte
oui,
de
ça.
Bonne conduite. Mmh. Et puis, il y a un partenariat qui est en construction avec l'APHP qui permet justement d'apporter ces dispositifs médicaux à des patients qui n'auraient pas de protection sociale.
D'accord. Et les patients, ils peuvent aussi participer à cette initiative, vous, moi, on peut aller à la pharmacie rapporter...
Exactement. Il est possible aux patients de rapporter des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les petits matériels d'orthopédie, typiquement l'attelle de cheville que vous allez garder 3-4 jours.
Ah oui, moi, j'avais une...
Dont on sert 5 jours et qu'on ne réutilise pas. Eh bien, c'est ces petits dispositifs, vous pouvez les rapporter car finalement vous n'allez plus vous en servir. Et à ce moment-là, ils sont remis effectivement en bon état et ils seront redistribués. À ce jour, on a récupéré plus de 165 orthèses, 300 bas de contention et plus de 500 produits d'hygiène qui ont été récupérés. Et puis, le patient peut récupérer un petit sticker disant « je suis patient solidaire » à travers lequel il s'engage à ramener à la pharmacie les dispositifs dont il n'aurait pas besoin. En plus de ce geste solidaire, il y a une logique d'anti-gaspillage.
Ah bah oui,
donc c'est aussi un geste écologique.
C'est très important en ce moment. Et en plus de cela, on peut aussi rapporter ces médicaments à la pharmacie. Ça existe depuis longtemps.
Oui,
hein,
exactement. Ouais. Et en 2018, 80% des Français déclarent rapporter les médicaments qui ne seraient non utilisés, qu'ils soient périmés ou non. On va vous donner un chiffre. Ça représente chaque année 10 800 tonnes de médicaments qui ont été récoltés. Ça fait environ 160 grammes de médicaments par an et par habitant de médicaments. En moyenne, les Français consomment 41 boîtes de médicaments par an.
C'est fou, ça.
Les chiffres sont un peu en diminution. On a consommé moins 2% de médicaments.
Par an, c'est
mais ça reste énorme. Donc peut-être qu'il faudrait que nous, on fasse attention à notre demande de médicaments pour faire ce geste un peu écolo.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Gatinel.
Bonjour.
Alors, avec vous aujourd'hui, on fait le point sur les interventions de la myopie. D'abord, ce type d'intervention, on le fait depuis combien de temps en France et ailleurs, hein, d'ailleurs ?
Alors, dans sa version moderne au laser, depuis maintenant une trentaine d'années.
Ah oui, c'est pas du tout récent. Moi, j'imaginais que vous alliez me dire 4-5 ans, mais non, c'est beaucoup plus vieux que ça.
Non, c'est plus vieux.
D'accord.
C'est plus vieux.
Et avant ça, vous dites version moderne, ça veut dire qu'il y avait une version pas moderne.
Oui, c'est ça. Il y avait une version plus ancienne, avec une sorte de bistouri miniature qui réalisait des petites incisions. On a abandonné. Le laser a apporté une véritable révolution en chirurgie réfractive au milieu des années 90, donc voilà, 25-30 ans.
D'accord. Jimmy ?
Et il y en a beaucoup de ce genre d'interventions en France. Vous, par exemple, vous en faites combien chaque année ?
Personnellement, un peu plus de 1000 par an. Et en France, je pense qu'on décompte à peu près 100 000. Hein, c'est l'ordre d'idée.
C'est énorme.
Interventions par an. C'est énorme. Et dans le monde, on estime que plus de 30 millions de patients ont bénéficié de la chirurgie réfractive.
C'est comme ça qu'on appelle la chirurgie de la myopie, la chirurgie réfractive.
Réfractive, d'accord. Pour corriger la réfraction, c'est-à-dire les propriétés optiques de l'œil qui peuvent être parfois donc prises en défaut, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, etc.
Alors justement, pour bien comprendre, aujourd'hui on parle de myopie, c'est quoi un œil myope pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand même ?
Alors ça dépend à qui on pose la question. Pour un ophtalmologiste, c'est un œil un peu trop long qui donc...
Il s'allonge à cause de la myopie ?
Alors,
ou il est déjà long au départ.
Il y a plein de raisons pour lesquelles l'œil s'allonge. D'abord, il s'allonge physiologiquement pendant la croissance, mais il s'allonge trop. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il doit s'arrêter de s'allonger. Et chez certains patients, l'allongement continue. Et pour un patient, être myope, c'est simplement voir flou au-delà d'une certaine distance.
Jimmy ?
Et pour l'instant, on ne peut pas guérir la myopie tout seul. On est obligé de passer par la chirurgie.
Alors, guérir la myopie au sens stopper la croissance de l'œil, il y a certaines études dans le monde en cours pour évaluer des protocoles différents, mais aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à arriver à atteindre cet objectif. En revanche, on corrige la myopie avec des lunettes, des lentilles et avec la chirurgie réfractive.
On ne peut pas être myope un jour et plus myope le lendemain, j'en sais rien, à l'adolescence, avec un bouleversement hormonal ou je ne sais quoi, ça n'arrive pas, les guérisons spontanées, on va dire.
Malheureusement non, parce qu'on ne peut pas rétrécir la longueur de l'œil, malheureusement.
Alors on n'en a pas terminé avec vous, docteur Gatinel. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Tous les myopes, même les plus sévères, sont-ils éligibles à ce type d'intervention ? Y a-t-il des contre-indications ? Et à quel âge peut-on se faire opérer ? Faut-il par exemple attendre d'être adulte ? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, en pratique, docteur, on va commencer. Donc, on est avec vous, docteur Damien Gatinel, chirurgien, ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. Ces opérations de la myopie. Imaginons, je veux me faire opérer, ce qui n'est pas mon cas, j'ai une parfaite vue, j'ai beaucoup de chance, mais je suis myope. Je viens vous voir et lors de cette première consultation, vous faites quoi ? Vous me regardez les yeux, j'imagine, déjà ?
Oui, déjà.
C'est ça, vous me faites asseoir et qu'est-ce que vous regardez complètement ?
Ben, on va regarder les yeux avec nos instruments, donc qui permet de voir l'œil en gros plan. On va analyser chaque tunique de l'œil, donc de la cornée à l'avant à la rétine, pour s'assurer qu'en dehors de la myopie, il n'y ait pas de maladie associée. Et puis on va surtout, spécifiquement, réaliser des examens qui sont destinés à mesurer l'épaisseur de la cornée et ses propriétés de courbure. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur de la cornée est un paramètre essentiel. On va sculpter la cornée au laser pendant la chirurgie.
C'est ça le principe de l'intervention, en fait, grosso modo. Hein.
Grosso modo, on change la courbure de la cornée, mais on le fait par soustraction de matière. Donc la cornée, une fois l'intervention effectuée, est un peu plus mince. Alors, c'est jamais beaucoup, mais on connaît, nous, les seuils à ne pas franchir en fonction de chaque cornée. On va pouvoir, comme ça, déterminer si on peut corriger toute votre myopie et si vous êtes une bonne candidate à la chirurgie réfractive.
Jimmy ?
Et donc, il y a plusieurs techniques différentes, dont le tronc commun, c'est de sculpter cette cornée.
Comment
est-ce que vous faites pour choisir quelle technique vous allez utiliser ?
Il y en a trois, grosso modo, je crois.
Ah oui, il y a trois techniques. Donc, très brièvement, le laser de surface, où on sculpte la cornée en surface. Le LASIK, où on réalise une petite ouverture superficielle et ensuite on sculpte la cornée dans son épaisseur. Et une troisième technique, le SMILE, où on prédécoupe avec un laser un lenticule dans l'épaisseur de la cornée et on l'extrait par une petite incision. Alors, schématiquement, quand les gens ont des cornées fines et des yeux un petit peu fragiles, on s'oriente plutôt vers les techniques de surface. Quand la cornée a une épaisseur suffisante et que l'œil est sain par ailleurs, on fait volontiers du LASIK ou du SMILE, ces deux techniques permettant aux patients une récupération plus rapide que le laser surface.
La plus fréquente, celle qui est la plus utilisée, c'est le LASIK.
C'est
je crois.
LASIK, ouais,
d'accord.
Tout à fait.
C'est aujourd'hui ce qu'on fait le plus. Vous disiez que vous regardiez l'œil, notamment la rétine avec quelques examens, et la cornée. Est-ce qu'il y a des contre-indications vraiment formelles à cette opération ?
Alors, il y a une contre-indication formelle qui s'appelle le kératocone, qui est une affection caractérisée par une dégénérescence biomécanique de la cornée, et qui donc peut passer inaperçu chez les patients dans les formes débutantes, et que l'on dépiste en faisant cet examen donc, qui s'appelle la topographie cornéenne, l'étude du relief de la cornée, et qui nous permet parfois de dépister le kératocone. On n'opère pas les patients qui ont un kératocone avancé. Quand il y a des formes débutantes, on peut éventuellement, dans certains cas, c'est au cas par cas, faire du laser de surface.
Oui. Et ce kératocone, il paraît que, enfin, vous nous avez expliqué que c'était les frotteurs. Alors, pas les frotteurs dans le métro, non. Mais ceux qui se frottent les yeux qui développent par la suite ce kératocone.
Mais vous m'avez désespéré hors antenne. Je vous ai dit que je me frottais les yeux tout le temps à cause des allergies. Vous m'avez dit, attention, vous risquez le
pris en photo en train de le faire.
Le kératocone.
Oui, le kératocone, effectivement. Alors, bien sûr, la médecine est un domaine qui évolue en permanence. Et on a, en tout cas, la Fondation Rothschild maintenant acquis la conviction que le kératocone était vraiment déclenché par les frottements. C'est peut-être pas uniquement les frottements, mais pour faire simple, si on ne se frotte pas les yeux, de notre point de vue, on a peu de chances d'avoir un kératocone, voire pas du tout. Donc c'est un geste assez machinal, routinier.
Tout le monde fait ça, tout le monde se frotte les yeux.
Les enfants,
le font surtout avec les phalanges, les poings serrés, il faut vraiment expliquer aux enfants que c'est pas bien de faire ça. Parce qu'on a mis en ligne il y a pas longtemps une vidéo sur Internet, qui est accessible sur Facebook, vous la trouverez facilement, et on voit en IRM dynamique, c'est-à-dire comme si on faisait un film, mais on voit à l'intérieur de l'orbite, l'œil se déformer. Un volontaire sain est rentré dans l'IRM et s'est frotté les yeux. C'est assez impressionnant et ça passe l'envie de se frotter les yeux aux gens qui visualisent ceci. Donc pour les patients qui viennent se faire opérer, on a souvent d'ailleurs comme question, une fois qu'on a regardé la topographie, est-ce que vous frottez les yeux? Et immanquablement, quand ils ont des cornées un peu irrégulières, oui, je suis allergique, oui, effectivement, je me suis frotté les yeux longtemps. Donc il ne faut pas le faire.
Vraiment, ça n'a effectivement plus l'envie, mais il n'y a pas même une petite technique pour se les frotter délicatement.
Si on peut se frotter
délicatement.
Le coin de l'œil. En fait, c'est les paupières qui grattent et les gens utilisent le
globe. Moi, je ferme les paupières et je mets le doigt dessus délicatement comme ça pour me frotter. Non, c'est pas terrible.
Le mieux, c'est de ne pas toucher ses yeux.
Bon, très bien, docteur Gatinel, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe au bloc opératoire. Que fait précisément le chirurgien pour nous débarrasser de notre myopie? Combien de temps dure d'ailleurs cette intervention et quelle est son efficacité? Tous les myopes opérés peuvent-ils réellement jeter leurs lunettes à la poubelle après l'opération? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild à Paris. Alors, je vous ai pas demandé tout à l'heure, mais cette opération, est-ce que c'est pour tous les myopes? C'est-à-dire que même un enfant, il peut se faire opérer, un enfant très myope, imaginons.
Non, c'est... Il faut être majeur. Ouais. Et éventuellement, et préférablement, que la myopie soit stable.
Ah oui, donc au moins, on laisse passer l'adolescence.
Voilà.
Vous opérez les gens à quel âge en général?
En moyenne, autour de la trentaine, entre 25 et 35 ans.
D'accord. Alors imaginons, ça y est, je suis prête à me faire opérer. Ça se pratique comment? Est-ce qu'il faut aller dans un hôpital? Est-ce que ça se fait en cabinet, cette intervention?
Non, ça ne se fait pas en cabinet. Il faut aller dans un hôpital parce qu'on a besoin d'équipements coûteux que sont les lasers, qui utilisent donc des technologies très complexes. Il faut aller dans des centres donc agréés pour la chirurgie réfractive. Donc en centre public ou privé, et l'intervention aura lieu en 15 minutes. On n'a pas besoin d'être à jeun, il n'y a pas besoin de voir d'anesthésiste. Il faut simplement faire la consultation comme on l'a expliqué, recevoir les informations, avoir un petit délai de réflexion, et ensuite on peut faire l'opération.
Alors j'arrive, vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de voir l'anesthésiste, mais comment ça se passe? Vous dites que c'est au bloc quand même, enfin à l'hôpital, donc je me déshabille, je suis en petite chemisette, tout ça juste pour les yeux ou...
Non, on vous donne juste une petite surblouse.
D'accord.
Et puis un petit bonnet pour les cheveux. Ensuite, vous rentrez, on essaie de vous rassurer parce que les patients souvent sont un petit peu impressionnés ou apeurés, c'est normal. Hein. Et les yeux, c'est un peu particulier. Et on a donc ensuite une petite séquence d'événements où le patient est allongé, on lui explique étape par étape. Bien sûr, on met des gouttes pour endormir l'œil.
Quand
ça,
même,
c'est très important.
Ah oui. Ça me faisait peur. Je vous imaginais avec votre gros bistouri vers mon œil.
Pas de bistouri.
Ah, il n'y a pas de bistouri, vous allez nous expliquer, Jimmy.
Et les gens, on est conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit ce laser arriver proche de notre œil.
Quelle horreur.
On sait que c'est parti. Donc on est conscient et on voit ce qui se passe.
Le patient, il voit le laser qui s'approche de son œil. L'œil, il est fonctionnel pendant l'opération.
Alors bon, le laser, déjà, c'est de la lumière. Donc il arrive tellement vite qu'on ne le voit pas.
Ah,
mais je comprends ce que vous voulez dire. Les instruments, oui, on les voit arriver près de l'œil. Certaines phases se font alors que le patient perçoit juste du gris ou un peu de lumière.
Moi, je voudrais ça, là, quand je devais me faire opérer, qu'on ne voit pas grand-chose. Parce que impressionnant, quand même.
Oui, en fait, les patients voient surtout des lumières vives au-dessus d'eux.
Vous n'avez pas un truc pour les mettre un peu à l'aise,
si,
les patients, quand même?
Si, on peut prendre des petits décontractants, bien évidemment.
Il y en a qui en ont besoin, quand même, j'imagine.
Oui.
C'est vrai qu'à ce moment où on arrive sur la table, parce que je me suis fait opérer
il y a quelques années,
et on arrive, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Ma vie était très belle, et qu'est-ce qui me prend? Et puis, dès lors qu'on sort, on est très content du résultat, donc ça dure, comme vous l'avez dit, très peu de temps, c'est 10 à 15 minutes, Et puis, la douleur, elle est quand même plutôt légère, elle n'est pas très, très importante.
Oui, et même on peut dire que ce sont des techniques indolores, alors à la fois pendant et après pour le LASIK et le SMILE. Pour la PKR, il y a des douleurs pendant 24 heures, mais ensuite ça passe, on peut les atténuer avec des antalgiques.
Et vous pouvez faire tous les myopes, c'est-à-dire que même les plus gros myopes, ceux qui ne voient rien du tout, les plus sévères, je dirais les plus gros, ça ne veut rien dire, mais les plus sévères myopes, ils peuvent être opérés aussi ?
Non, on peut quand même opérer 80% des myopes, en gros, mais au-delà d'une certaine importance de la myopie, on ne peut pas parce que la cornée n'est pas assez épaisse. Donc c'est aussi une fonction de l'épaisseur de la cornée dont on dispose et de la myopie du patient. Mais on peut opérer, pour les cas les plus extrêmes, jusqu'à 10-12 dioptries. Et 80% des myopes sont en deçà de 8 dioptries. Donc vous voyez, on peut quand même opérer une majorité de myopes.
Il y a une autre solution pour cela, pour les plus gros myopes, il y a des implants, je crois.
On peut mettre des implants dans les yeux quand les patients sont jeunes et n'ont pas la cataracte. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on a la cataracte...
L'implant, ce n'est pas un œil bionique, c'est quoi cet implant?
C'est une lentille corrige les...
Mais qui est permanente, qui reste sur l'œil. Hein, ouais.
Voilà. Et puis quand on a la cataracte aussi, on peut profiter de la chirurgie pour réduire ou corriger complètement sa myopie.
Deux en un, quoi.
Exactement.
Jimmy?
Et donc c'est une intervention donc très compliquée parce qu'il faut vraiment quelque chose.
C'est minutieux,
un haut niveau,
disons,
voilà,
ouais,
de précision. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous opérez? Vous incisez, vous on sculpte, on met des coups de laser. Comment expliquer?
L'open chirurgie qui est en fait un peu une des précurseurs en termes de robotisation. On parle beaucoup de robots chirurgicaux et moi je considère que les instruments que j'utilise, donc les lasers, sont des robots. Tout simplement parce qu'ils réalisent des gestes très précis. Hein, c'est comme un peu de l'horlogerie. Hein, on travaille à la même dimension qu'un horloger. Un œil, une montre, c'est un peu pareil. Et on doit faire des choses à l'échelle.
Et vous dirigez un robot pendant l'intervention? Voilà, vous n'êtes pas sur l'œil du patient,
en fait. On préprogramme un robot pour faire certaines, on va dire pour le capot, certains tracés dans la cornée. Mm-hmm. Une fois qu'on les paramètre en fonction des examens préopératoires, on approche le robot de l'œil. On sécurise à l'œil les parties qui doivent être au contact. Et une fois que l'œil est bien sécurisé, bien immobilisé, à ce moment-là, le laser est délivré par un robot. Et ça dure 15-20 secondes.
Et c'est très très minutieux, hein, c'est de l'ordre de quoi comme précision?
Les précisions, pour creuser la cornée, on est à l'échelle du quart de micron. Alors un micron, c'est un millième de millimètre.
Oui,
vous voyez,
c'est très 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 minutieux.
C'est très très précis et c'est pour ça que cette chirurgie fonctionne très bien. D'ailleurs, on travaille à la même échelle que la lumière, une longueur d'onde de lumière, c'est... un demi millième de millimètre et on travaille à la même échelle. C'est pour ça que le laser a révolutionné la chirurgie réfractive.
Et qu'est-ce qui se passe si le patient bouge au niveau des yeux tout d'un coup? Parce qu'à un moment on nous dit il ne faut plus bouger, mais si on a l'œil qui par stress...
On ne contrôle pas toujours.
On
ne
contrôle pas trop exactement, qu'est-ce qui se passe?
Alors les patients d'abord...
Vous avez dû bouger, non, vous, pendant la vôtre?
Non, j'étais très attentif parce que j'avais très peur.
Exactement.
Et du coup j'écoutais précisément les consignes, mais il peut aussi arriver qu'on bouge l'œil à ce moment-là.
Oui, mais c'est plutôt la première action, c'est-à-dire que les gens sont quand même impressionnés, donc on ne peut pas dire qu'ils sont pétrifiés, mais ils n'ont pas tendance à bouger beaucoup, ils sont bien calés, en plus tout est ergonomique.
Et si quand bien même ils bougeaient alors?
Quand le laser est délivré, il y a une caméra qui filme en permanence les tirs du laser. Alors, les lasers qui corrigent la myopie, les lasers, on les appelle excimers, sont des lasers qui tirent à 500 tirs par seconde, par exemple. Mais on a des caméras haute fréquence qui filment plus vite que le laser ne tire et qui corrigent en temps réel, éventuellement, les petits mouvements qu'on peut avoir, des petites saccades, des petits mouvements erratiques de l'œil.
On ne bat pas des cils, par exemple, pendant cette intervention? Donc, vous la bloquez, l'œil.
Les cils sont bloqués, bien sûr.
D'où l'angoisse à ce moment-là. on n'est pas bien.
Voilà. C'est ce qui angoisse le plus les patients, l'écarteur à paupières, alors que pour nous, c'est un geste banal que de le mettre sur nos patients. Mais
chacun ses hobbies et ses pratiques.
Voilà, on parle d'orange mécanique, les
c'est
patients.
Ça,
ont,
ça va voilà. Exactement penser à
exactement.
Ça. L'après, ça se passe comment? Est-ce que tout de suite, en sortant, je vois bien, ça y est, ou pas? Jimmy, il a dit tout à l'heure, non, c'est pas immédiat.
Oui, mais j'ai pris ma voiture pour rentrer.
Mais il ne faut pas le faire, docteur.
Parce que ça, Jimmy, les médecins, c'est ceux qui veulent travailler le plus vite après.
Le moins. Comment les gens, je suis alors après?
Les gens normaux.
C'est ça, les gens pas médecins.
Oui, alors en fait, on les garde un peu avec nous pendant 10-15 minutes, on leur sert un petit café puis on les contrôle pour leur réexpliquer les consignes qui sont de ne pas frotter ses yeux, bien sûr.
D'accord.
De bien commencer les gouttes le jour même. Et puis, on leur donne donc l'ordonnance des colliers qu'ils achètent à la pharmacie, ils rentrent chez eux, ils se reposent en général, ils font la sieste, avec des petites coques de protection qu'on scotche sur les paupières pour, encore une fois, éviter que l'œil soit touché pendant les premières heures.
Et à partir de quand je peux jeter mes lunettes alors?
Alors, en LASIK, en SMILE, dès le lendemain, des patients travaillent, Jimmy en est un exemple, et c'est tout à fait possible de retravailler le lendemain après les techniques de LASIK et de SMILE. En PKR, on doit observer un peu plus d'arrêt, donc on va dire on reprend le travail au bout de 3-4 jours.
Bon, ça a l'air pas mal tout ça quand même, c'est assez rapide, on se remet bien. Combien ça coûte cette intervention? Est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie pour terminer?
Non, alors elle n'est pas remboursée du tout. Certaines mutuelles en revanche offrent une prise en charge. Et les coûts sont variables, mais c'est entre 1 000 et 2 000 euros par œil.
Et la mutuelle peut prendre en charge une partie. Pour terminer, une fois que j'ai fini cette intervention, que j'ai récupéré ma vue, ça veut dire que plus jamais je viendrai voir un ophtalmo, je suis tranquille, je ne vous verrai plus jamais. C'est pas que j'aurais pas envie, mais...
Malheureusement non, pour tout un tas de raisons. D'une part, parce qu'un jour, la presbytie, vous êtes encore jeune, mais après la quarantaine, en général, on a la vision de près qui baisse. Et puis de toute façon, il est toujours conseillé d'aller voir son ophtalmologiste, même quand on n'a pas de problème de vision, pour dépister des maladies comme le glaucome, comme des problèmes rétiniens.
Une fois par an, grosso modo, voilà. On continue.
Le fait d'opérer la myopie permet aux gens de vivre sans lunettes, sans lentilles, mais ne les soulage pas des risques liés à la myopie qui imposent une surveillance annuelle chez leur ophtalmologiste.
On continuera plus de lunettes, mais on vient vous voir quand même une fois par an. Merci beaucoup, docteur Gatinel, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur cette intervention de la myopie. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'orthorexie, quand le manger sain devient une obsession, une maladie. On va vous aider à identifier ce trouble. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'orthorexie. Connaissez-vous ce trouble qui touche presque 3% de la population? Savez-vous ce qui le caractérise? Est-ce si grave d'ailleurs ce trouble alimentaire? Benjamin Lévesque, qui prend soin de sa ligne, a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Quelque chose lié peut-être, aux os, ou quelque chose, un problème osseux. Orthorexie.
Ortho, pour moi, c'est les os.
Est-ce que ça a rapport aux oreilles? Est-ce que ça a rapport à la tête quand même ou pas? C'est les sinus? C'est dans le cerveau? Une orthorexie.
Pour moi, c'est les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent et pour peut-être pas grossir et voilà.
Ah oui, bah c'est assez d'actualité alors.
Je pense que c'est quelque chose qui est plus féminin.
Une obsession de manger sain pour rester en bonne santé tout d'abord et surtout pour... c'est un problème qui est dans la tête et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à soigner que ça va au-delà d'un régime.
Si on veut manger plus sainement, en quoi c'est mal? Après, il faut pas qu'il y ait des dérives avec des carences alimentaires, mais...
C'est bien de manger équilibré, mais il ne faut pas non plus être trop dans l'excès. C'est bien aussi de se faire plaisir, de manger des fois un peu gras, un peu sucré.
Jimmy, vous avez l'air épaté par la qualité du micro-trottoir avec des gens qui finalement sont très au fait de ce sujet.
C'est pas mal, car moi je n'avais aucune idée avant 5 minutes, mais très bien. Bravo les auditeurs d'Europe 1.
Jimmy, c'est vrai que l'orthorexie, c'est moins connu, donc des médecins peut-être, mais plus des gens apparemment, que la boulimie ou l'anorexie. Pouvez-vous quand même nous expliquer, puisque je vous ai préparé 2-3 fiches sur le sujet.
Oui, dépenses bêtes, on va appeler ça.
Ce qu'est ce trouble, voilà.
Et vous allez voir que l'improvisation est un talent que je n'ai pas toujours, mais en tout cas, on va essayer de le faire en sorte que ça marche. Alors, c'est un trouble du comportement alimentaire, qui consiste à avoir des patients qui vont se focaliser de façon excessive sur le fait d'avoir une alimentation saine. Ils vont être dans l'hyper-contrôle plus que dans le plaisir. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont être incapables de savourer un plat en famille ou entre amis, car ils n'auront que d'obsession, la valeur énergétique et la qualité du produit, sans pour autant chercher ce sentiment de plaisir et d'alimentation qui peut conduire un trouble du comportement qui se rapproche des personnes qui seraient anorexiques.
Oui, ils ont ce contrôle aussi en permanent du nombre de calories, etc. Mais c'est pas la même chose. Là, ils mangent. Souvent, il y a une privation de nourriture chez les anorexiques. Elles mangent de moins en moins, ou ils mangent de moins en moins. Là, c'est vraiment ce souci du manger sain. Alors, en même temps, en ce moment, on l'a tous un peu. Il y a eu plein de scandales sanitaires autour de la nourriture. On s'inquiète des pesticides. On s'inquiète. On veut manger bio. Donc, on est tous un peu orthorexiques. C'est quoi qui fait la différence entre le je veux manger sain et le pathologique finalement?
Oui, c'est vrai. Moi, je suis végétarien depuis 10
j'allais
jours.
J'allais dire que vous l'étiez un petit peu orthorexique.
Voilà. Non, mais depuis 10 jours, je ne mange plus de viande. Voilà, je vais craquer. Voilà, je pense,
il a des lubies alimentaires de temps en temps, le docteur Mohamed.
Mais là, il y a un questionnaire qui permet justement de différencier les personnes qui font attention à leur alimentation de ce comportement pathologique. Déjà, les gens pensent ou planifient leur repas plus de 3 heures par jour. Et ils pensent à leur alimentation. Donc, il y a une obsession réelle. Ils ont un sentiment un peu de supériorité par rapport à ceux qui ne suivraient pas cette alimentation.
J'ai l'impression que c'est vous. Non, il m'essaye de me convaincre d'arrêter la viande depuis 6 jours.
Un petit peu. Et ils font ce régime de façon stricte et ils suivent de façon minutieuse avec un sentiment de culpabilité si jamais ils font des écarts. Et parfois, ils vont avoir un sentiment de privation et du coup, essayer de se rattraper en disant « je vais éviter de manger pendant plusieurs jours ». Et souvent, ils s'isolent sur le plan social et parfois ont une obsession quant au fait de compter les calories.
Alors, juste terminer, Jimmy, rapidement, est-ce que c'est très fréquent ou pas ?
Non, c'est 3% de la population et c'est plutôt des femmes que des hommes.
D'accord, et donc vous, vous êtes un homme, mais vous êtes quand même concerné, je pense, un tout petit peu. Une légère orthorexie, juste, ça se soigne hein, quand même.
Oui, alors il n'y a pas de prise en charge qui est clairement codifiée, car finalement, ce n'est pas une pathologie
encore
qui est
tout à fait reconnue.
Très reconnue. On sait que des thérapies cognitivo-comportementales peuvent être la solution.
Comme un peu toutes les phobies, hein,
exactement,
finalement.
Donc il faut un soutien psychologique et ne pas hésiter à consulter si jamais on en souffre.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. Il sera question des complexes physiques qui peuvent parfois réellement perturber les relations sexuelles. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, fidèle au poste, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Super bien. Et vous, allez-vous bien ?
Oui, parfaitement.
Tous
Jimmy aussi, toujours en forme. Bon, c'est bien. Alors on continue. On va essayer de répondre aujourd'hui à la question de Marguerite. Je vous la lis tout de suite. Je suis en couple depuis 8 mois avec un nouveau compagnon. Il aimerait que nous fassions l'amour en laissant la lumière allumée, mais je ne veux pas, car je suis complexée par mon corps. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est fréquent dans les couples, enfin ces couples qui se disputent comme ça sur ce sujet, lumière ou noir complet, c'est un vrai sujet dans les couples ?
Oui, parce que effectivement, généralement, la difficulté est plus du côté féminin à accepter la lumière et plus du côté masculin à la souhaiter. Et donc, évidemment, on n'est pas tout le temps dans les périodes de sa vie dans la même tranquillité pour exposer son corps et l'offrir au regard de l'autre. Donc, souvent, effectivement, c'est un sujet. De là à faire de grandes disputes.
Pas non plus. Non. Ouais. Mais pourquoi les hommes, ils sont plus friands, justement, de la lumière ? Alors, ils veulent voir, quoi. Pourquoi c'est souvent les hommes, en tout cas ?
Oui, c'est souvent les hommes parce que dans la construction masculine, le rapport à la sexualité passe par la découverte de son sexe et la possibilité de le voir. Quand pour la femme, voir son sexe est une histoire beaucoup plus compliquée. Donc, elle est plus portée par l'imaginaire de son sexe et elle va envisager la sexualité avec l'autre plutôt portée par l'imaginaire. Donc, faire l'amour dans le noir, indépendamment de cette question qui pose la question de la pudeur personnelle, c'est aussi une façon de pouvoir laisser aller l'imaginaire pour imaginer l'autre, envisager l'autre dans tout ce qui est l'expression de ses propres fantasmes. Alors que pour l'homme qui a eu l'habitude de se construire en regardant son pénis, en mesurant son pénis, en observant toutes les capacités de ce sexe, eh bien il veut voir ce que ce sexe va faire dans cet autre sexe, et d'ailleurs observer ce sexe de façon extrêmement fine, de façon presque pornographique.
Jimmy ?
Alors Catherine, je ne vais pas vous demander votre préférence à vous, mais quel conseil vous pouvez donner ? Est-ce qu'on doit faire ça ?
Merci.
Non, je vous en prie, mais est-ce qu'il faut le faire comment ? Alors allumer ou éteindre la lumière ?
Moi je trouve que évidemment il faut que les deux puissent s'y retrouver. Je pense qu'on peut se dire, bah, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, pourquoi pas ? Mais on peut aussi se dire qu'une lumière toute douce et câlinante que peuvent être
des bougies, une ambiance tamisée, ça peut être sympa aussi. Hein.
Voilà, on n'est pas obligé que ce soit chirurgical. Ce que les hommes...
C'est sûr que si vous avez des néons chez vous, Jimmy, c'est beaucoup moins sympa. Hein.
Voilà. Non, mais c'est sûr que pour l'éclairage maximum, évidemment, est assez violent, pour les femmes en tout cas, parce que évidemment, en plus, il y a des positions où elles s'offrent de façon assez abandonnée. Il ne faut pas demander à une femme de s'abandonner si en même temps, on l'expose au-delà de simplement son corps, on l'expose dans ses propres fantasmes et ses propres pudeurs. L'intérêt de la sexualité, c'est aussi de jouer avec le voile de la pudeur, qu'on découvre légèrement ou qu'on remet, etc. Si on est plein néon, à moins de participer tous les deux de cette espèce de regard pornographique, encore une fois, ce n'est pas une critique. Hein,
c'est du voyeurisme de la part des hommes, cette volonté tout souvent de vouloir laisser la lumière allumée ?
Oui, mais ce n'est pas malsain, le voyeurisme, dans ce cas-là, dans le cadre de la relation de couple, c'est ce qui participe de l'excitation, en effet. Comme l'exhibitionniste de la femme qui arrive, qui se serait préparée, qui aurait mis, je ne sais pas, des bas, c'est un exhibitionnisme aussi, une mise en scène,
mais
en quelque sorte, de son corps. Oui, on n'est pas dans le voyeurisme ou l'exhibitionnisme dans le jardin public, on est dans l'histoire de couple et des jeux amoureux, bien évidemment.
Jimmy ?
Mais Marguerite, qui est complexée par la lumière, elle a qu'à tout simplement l'éteindre et dire à son compagnon « Non, je ne veux pas ». Et puis, il n'y a pas de mal à faire l'amour, la lumière éteinte.
Oui, il n'y a aucun mal, au contraire, ça peut donner tout le loisir justement de prendre la mesure du corps de l'autre, de façon de le palper différemment, puisqu'on ne sait pas où il est, il faut qu'on l'appréhende, qu'on anticipe où doit être la jambe, où doit être le bras, etc. Qu'on découvre ses seins en les prenant dans ses bras plutôt que de ses mains plutôt que de simplement les regarder. Donc on peut accompagner beaucoup plus volontiers le corps dès lors que l'obscurité empêche la perception de l'autre. Maintenant, vous le savez aussi, faisant l'amour dans le noir, à moins d'avoir une pièce complètement noire, noir.
Oui, c'est jamais
la réalité,
complètement noir. Hein.
C'est jamais complètement noir. Les yeux s'habituent et finalement, on se devine. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des grands néons. Je crois que c'est souvent une volonté de voir directement et pas se donner le temps de... Ce qui est intéressant au-delà de la pudeur, c'est de se donner le temps d'appréhender l'autre, de faire marcher notre imaginaire, etc. Et je pense que parfois les hommes se privent de ce chemin-là. Maintenant, une femme a trop de pudeur, elle se prive d'elle-même aussi.
Pour contenter tout le monde, elle pourrait aussi décider de le faire dans le noir, mais avec quelques petites bougies, et expliquer peut-être à son compagnon que finalement, faire l'amour dans la pénombre, ça peut aussi aider à faire appel à d'autres sens. Elle peut lui présenter les choses comme ça, non, peut-être ?
Bien sûr qu'elle peut lui présenter ainsi. Évidemment que toute la difficulté pour elle, c'est qu'elle est trop préoccupée par elle-même. Je pense qu'on a particulièrement besoin de noir quand on est en train de se regarder, quand on est fâché avec son corps, quand on regarde le pli, le bourrelet, le sein qui ne tient pas là où il devrait tenir, alors qu'en fait on est dans un exercice, donc de fait tout le corps est assez malmené, et donc il faut faire la paix et effectivement trouver le cadre dans lequel ça se fait le plus simplement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier, on va s'intéresser à la rougeole, une maladie que beaucoup pensent inoffensive. Eh bien, une épidémie vient de faire 70 morts dans les îles Samoa à cause du manque de vaccination. On va faire le point bien sûr sur la situation française et ce que veut dire vraiment cette maladie. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, aujourd'hui dans l'équipée sauvage, double dose de bonne humeur pour vous accompagner dans les bouchons, dans cette journée de grève des transports. On sera en compagnie de Karim Rissouli, présentateur de C'est Politique sur France 5, un ancien de la Maison Europe 1. Ses retrouvailles avec ses anciens collègues risquent d'être pimentées.
Très bien, ça sera une excellente émission, j'en suis sûre. Et vous, restez sur Europe 1.